Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Enfin, moi, après ces 15 jours d'absence, c'est vraiment quelque chose de chanter ensemble, de louer ensemble, de prier ensemble, de se retrouver dans la présence du Seigneur ensemble. C'est vraiment une grâce. On n'a pas eu l'occasion pendant ces 15 jours, on a vécu une semaine dans un centre chrétien, on n'a pas eu l'occasion de rester le dimanche pour le culte, et c'est vrai que 15 jours sans culte, ça nous manquait. Donc vraiment, c'est une grâce. Alors effectivement, j'avais ça à cœur depuis quelques temps, sur la fin des temps. C'est toujours délicat d'aborder ça. C'est toujours de savoir où est la bonne dose, où est ce qui est à partager. Parce que la parole de Dieu, non seulement, comme tu disais dans l'Apocalypse, parle de la fin des temps, mais en fait, je me suis rendu compte que toute l'Écriture parlait de la fin des temps. Et il y a comme un élan dans l'Écriture, et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment diviser en trois messages, parce que ce serait vraiment trop long, et ça serait peut-être supprimer trop de choses de faire ça en un seul message. Donc je voulais d'abord faire sur les nations et les peuples, savoir d'où venaient les nations et quelles étaient leurs destinées. Ensuite, l'Église et ensuite, moi. Voilà. Donc on a trois rendez-vous comme si l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Apocalypse se tenaient là-dedans. Alors il y aura trois dates. Hein, on a noté donc aujourd'hui pour ce qui est des nations. Il y aura le 15 mai concernant l'Église et il y aura le 19 juin concernant moi. Moi face à tous ces événements. Et c'est comme s'il y avait une structure de trois entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors vous savez, je pense qu'on vit une époque dont on ne réalise pas l'importance sur l'histoire d'humanité. Moi le premier, je ne me rends pas compte. C'est en étudiant un petit peu et en fouillant un peu, je me suis rendu compte de ce temps très particulier. Et j'allais presque dire, enfin je vais le dire, exceptionnel. Unique dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que ma génération est la première génération qui a vécu sans guerre depuis sa naissance. C'est quelque chose déjà d'assez surprenant. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, dans cette époque, je crois, est formidable. Il y a quelqu'un qui a dit « Je suis aujourd'hui au premier jour du reste de ma vie ». C'est vrai ? Je se répète ça ? Pas toujours, hein ? Je suis au premier jour du reste de ma vie. Aujourd'hui, et je crois aussi qu'on est au premier jour du reste de l'histoire de l'humanité. On va forcément vers une échéance. Jamais les peuples et les nations n'auront été aussi nombreux sur la Terre à partir de 2020. Entre 2020 et 2030, ou 2050, on sera près de 9 milliards sur la Terre. 9 milliards. La moisson est grande. La moisson qui est là aujourd'hui est immense et elle sera encore plus immense d'ici une vingtaine d'années. Alors la fin des temps a été prêchée, a été annoncée, a été galvaudée. Il y a eu des caps comme l'an 1000 où forcément la Terre, qui à l'époque était plate, allait basculer dans les abîmes et les hommes allaient suivre. On a eu l'an 2000 où plein de prophètes et de comment dire ça dites-moi. Des faux prophètes, voilà, c'est ça, des comment j'avais noté ça quelque part, des augures. Je pensais à Paco Rabanne, etc., qui nous annonçait un cataclysme, etc. Il y a eu aussi des chrétiens, de toute génération, qui ont annoncé la fin des temps et qui ont donné des choses assez précises et les choses ne se sont pas faites. Et ça aussi, un petit peu, fait perdre ce message-là. Alors depuis 20 ans, vous savez, dans l'Église, particulièrement l'Église évangélique, c'est celle que je connais la mieux, il y a des modes et des tendances. Il y a 30 ans, on parlait de la fin des temps. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, un pasteur qui partait de l'Église à sa voiture, il avait la main qui sortait de la voiture et qui disait « Jésus revient ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, pour les plus anciens, où il y avait vraiment cette culture du « Jésus revient ». Mais depuis 20 ans, j'entends plus parler de ça, ou très peu. Alors j'entends parler de prophètes, j'entends parler de prophétie, j'entends parler de guérison, j'entends parler de restauration, j'entends parler pour la restauration de l'âme, etc. Moi je suis pour ces choses-là, et c'est une bonne chose parce que ça nourrit le peuple de Dieu. Mais je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin sur la vision à laquelle on est appelé en tant que peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, super. Alors, on l'utilise de moins en moins, ce mot apocalypse ou fin des temps. Ce qui est surprenant, c'est que moi je le lis dans la presse et dans les journaux spécialisés. Depuis une dizaine d'années, Je lis de plus en plus, que ce soit sur des scientifiques, que ce soit sur la démographie, sur l'écologie, les astrophysiciens, les géologues, les économistes pointus utilisent ce mot de plus en plus d'apocalypse. Et alors, je suis étonné, hein, parce que c'est vrai que ça devrait être plutôt nous qui sommes accessibles à ça. Elle est d'accord, hein? Elle est d'accord, la petite? Elle suit, hein? Okay. Alors, j'ai l'intention non pas de vous donner le mois ou l'année ou le jour, mais j'ai l'intention de vous donner l'heure où ça va arriver. Je voudrais bien que vous réagissiez un peu plus, parce que parce que si je commence comme ça, arrêtez-moi, c'est que je vais dire des bêtises, parce que c'est pas ce que la parole nous enseigne. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Merci. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus va revenir. Et ça, la parole nous l'enseigne clairement. Et la fin des temps est liée à son retour, ou la fin des temps est liée à son retour est lié à la fin des temps. C'est indissociable l'un et l'autre. Vous savez pourquoi ? Parce que le deuxième sujet le plus traité dans le Nouveau Testament concerne son retour et la fin des temps. C'est pour ça que je suis surpris qu'on l'entende de moins en moins dans l'Église. Alors que c'est le deuxième sujet principal. Il y a 319 versets qui rappellent cela. Et quand je lis, et quand j'ai eu l'occasion, de pendant ce temps de vacances, de me plonger un peu plus dans l'Écriture, quand on parle de l'Apocalypse, j'ai découvert aussi une autre Apocalypse dans l'Écriture. Zacharie, qui est un prophète qui a été très inspiré, comme tous les prophètes de l'Écriture, a vraiment, et ça d'ailleurs, son livre, elle nous a été dit qu'il était l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est donc qu'on a des choses à trouver. Alors, je crois qu'on est branché sur certaines paraboles en ce moment, ou certains écrans, on va y revenir d'une façon très précise, mais je crois qu'il va falloir qu'on arrive à brancher aujourd'hui, et de plus en plus, notre parabole sur l'Écriture et sur ce que l'Esprit nous révèle dans l'Écriture. Amen. Voilà pourquoi c'est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il est dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Ouais, alors c'est Apocalypse chapitre 22, verset 16. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entende ces paroles dise « Viens ». Il y a comme un souffle qui doit être là et qui doit naître en nous. Si nous avons donné notre vie au Seigneur, petit à petit se construit un souffle qui dit « Viens, Seigneur, viens ». La Bible tend vers cet accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Dieu n'est pas pressé, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors on pourrait dire « Oui, ça fait déjà des millénaires, ça fait beaucoup de choses qui se sont passées, on nous a promis des choses ». Moi je vais vous dire un petit détail, ça c'est la parole de Loïc, c'est pas la parole de Dieu. Mais je crois qu'il faut faire attention au temps dans lequel nous sommes. Parce que Jésus est ressuscité au matin du troisième jour. Et un jour est égal à 1000 ans dans la parole. Et nous sommes rentrés dans le matin du troisième millénaire. Il y a des temps qui s'affinent de plus en plus par rapport à l'Écriture. Je n'ai pas une grande connaissance suffisante de tout cela. Mais le peu que j'ai me révèle de plus en plus qu'on arrive à des choses qui vont se manifester. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient. Et c'est non pas pour qu'on soit dans une crainte ou dans une peur, mais qu'on soit dans une attente que l'Écriture et que l'Esprit nous disent « Viens, viens ». J'espère que ça a une résonance dans vos cœurs, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est important. Alors, c'est une époque formidable, et on va attaquer la parole un petit peu après. Pourquoi ? Parce que dans les 100 dernières années, écoutez ceci, hein, dans les 100 dernières années, il s'accomplit plus de prophéties que dans les 1900 ans qui ont précédé ce temps des 100 dernières années. Yes ? Ça veut dire qu'il y a comme une accélération des choses. Ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années, qui est décédée à 87 ans, me disait, j'étais très surpris de ça, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, elle me dit, je sens que les temps accélèrent. Je sens que les choses augmentent. Elle dit, je comprends pas, je suis en retraite, maintenant je suis tranquille, je fais mon petit train-train. Elle dit, ça c'est cool, c'est dommage, j'avais ramené un sablier, je sais pas où je l'ai mis. Elle me disait, ça c'est cool, ça me glisse entre les doigts. Le temps accélère. Parce qu'il y a des rendez-vous. C'est pour ça que dans les 100 dernières années, il s'est passé énormément de choses. Je ne vais pas toutes vous les rappeler parce que malheureusement, c'est vrai qu'on en oublie. Mais je crois qu'il y a un temps qui approche. Je ne veux pas vous faire peur. C'est simplement qu'on puisse voir, c'est aussi ce que je vous partage, si la parole de Dieu aussi le dit. Hein. Mais par contre, ça c'est sûr et certain, dans les 100 dernières années, il y a eu plus de prophéties accomplies que dans les 1900 ans qui ont précédé. Il y a, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi dans ce terme, il y avait les nations. Je crois qu'il faut avoir un œil sur l'écriture, sur la parole de Dieu. Il faut être vraiment attentif à ce que la parole nous enseigne. Il faut avoir un œil sur les événements qui se déroulent dans les nations. Il y a non seulement ce qu'on vit nous en France, mais je crois qu'il faut voir un peu plus loin. Et il y a un œil qu'il faut avoir absolument sur Israël. Sur Israël, et particulièrement sur Jérusalem. Du début à la fin de l'écriture, vous avez toujours un rendez-vous avec Jérusalem et le peuple d'Israël. Vous savez, c'est pour ça que Zacharie, il y a eu, j'avais noté 71 citations de Zacharie qui se retrouvent dans le Nouveau Testament. Et dans les 71, il y a eu 7 prophéties, clairement sur Jésus-Christ et sur Jérusalem, qui se sont accomplies. Alors on va aller voir ce qu'il nous dit Zacharie, si vous voulez bien. Au chapitre 8, le Seigneur de l'univers me communiqua ce message. Moi, le Seigneur, j'ai un amour ardent pour Jérusalem. J'éprouve une vraie passion pour elle. C'est pourquoi je le déclare, je reviens à Jérusalem et j'habite de nouveau à Sion. Dieu a une vraie passion pour Jérusalem. C'est chapitre 8 dans le livre de Zacharie. C'est à partir du verset 1, chapitre 8, verset ça. Ça commence au début, excusez-moi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, Israël, on va rentrer dans 2 ans, dans les 70 ans de la présence du peuple d'Israël à Jérusalem. Pendant plus de 1900 ans, jusqu'au 14 mai 1948, c'était une espèce de désert, de no man's land, qui était sous gestion des Nations Unies. C'est les nations qui décidaient de l'avenir de la ville de Jérusalem et du territoire d'Israël. Et le 14 mai 1948, il y a eu la création de l'État d'Israël, et dans 1 an et demi, enfin quasiment 2 ans, enfin dans 2 ans, on fêtera les 70 ans. C'est important parce que les temps dans l'écriture sont toujours signalés très souvent par 3 ou par 7, ou par 70, ou par 700. C'est simplement une évolution du temps. Pendant 1900 ans, le peuple d'Israël a été sur toute la surface de la terre, dans toutes les nations. Et la parole s'est accomplie d'Ésaïe qui avait dit, est-ce que on a vu naître une nation ou un État en une journée. C'est quelque chose qui était impossible, qui était irréalisable. Il a fallu la Shoah pour que cette prophétie s'accomplisse en un jour. L'État d'Israël s'est créé en un jour. Et Jérusalem a été récupérée par les Juifs. Ça, ce sont des choses que pendant près de 3000 ans, les écrits de, enfin 2600 ans, les écrits d'Ésaïe, tous les lecteurs se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit dans l'écriture? On n'a jamais vu une nation ou un État se refaire en une journée. Et c'est une chose qui s'est accomplie d'une façon claire et nette. Et vous allez voir, il y en a plusieurs qu'on va retrouver. Alors les nations sont issues d'un partage très particulier. Après le déluge, Noé a eu 3 fils. Il a eu Sem, Sam et Japhet. On va aller voir comment les choses se sont déroulées rapidement. Alors on va aller dans Genèse chapitre 6. Important, on va résumer un petit peu l'histoire des nations. Et là aussi, on va aller au chapitre 8 plutôt. Je ne sais plus où c'est, excusez-moi. Chapitre 10, pardon. Dans Genèse chapitre 10. Alors verset... On peut commencer au verset 1, on ne va pas lire tout le chapitre 1. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Sam et Japhet eurent des fils. Et voici leur liste de leurs descendants. La liste des descendants de Sam et Japhet est de 70 noms. C'est précis. Et Sem, un des fils, le premier fils de Noé, a donné une descendance avec Abraham dans cette descendance. C'est pour ça qu'on appelle ce peuple les Sem, les Sémites. Eh oui, c'est pour ça qu'on les appelle les Sémites. Cette descendance de Sem, de ce premier fils, a donné naissance à Abraham. Et il nous est dit au verset 32, « Tels furent les clans issus des fils de Noé, selon la liste des descendants, nation par nation. » C'est d'eux que descendent toutes les nations dispersées sur la terre après la grande inondation. Et vous savez, juste à ce moment-là, il y a une séparation entre les nations. Il y a ceux qui décident d'aller faire la tour de Babel, et il y a ceux, la descendance d'Abraham, qui commence à se tourner vers l'Éternel. Et cette descendance des nations, elle nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent marcher selon la tour de Babel, et ceux qui veulent marcher selon la foi, la descendance d'Abraham. Sam et Japheth, sur Sam, vous avez aussi la descendance de tout ce qui est les Ismaélites. Le fils qui est né à Abraham et qu'on retrouve aujourd'hui sa descendance. C'est tous les peuples du Moyen-Orient. Quand Abraham a une particularité, il nous est dit que... On va vous lire hein, Genèse 18. On y va ? Genèse 18, 18. On va lire au verset 17. Le Seigneur se dit, je ne vais pas cacher Abraham parce qu'il se retrouve face à la ville de Sodome et Gomorrhe. On va y revenir sur cette ville. Le Seigneur se dit, je ne vais pas cacher Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. Écoutez ceci, à travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Moi, ça m'a beaucoup encouragé parce qu'Abraham a cru en l'Éternel. Et je crois que les nations ont été bénies par sa foi et les nations sont toujours bénies aujourd'hui par la foi de ceux qui se confient dans le Dieu d'Abraham. Amen. Vous êtes, par votre foi, une bénédiction pour la nation. Et je pense que la France aujourd'hui a oublié d'où elle vient dans son histoire. Elle nous entraîne oublier, on entraîne vouloir enseigner l'islam et pas la Bible dans les écoles. On est en train d'oublier de qui nous sommes issus. Et quelle a été la bénédiction ? Parce qu'il y a eu des croyants, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru et qui se sont engagés. Et cette nation a reçu une bénédiction. Plus elle va s'éloigner de cela, plus elle va subir des choses difficiles. Je fais pas mon prophète, hein ? On est bien d'accord. Je donne aussi ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'Abraham a cru en lui, je bénirai les nations, et les nations seront bénies en lui. Béni sois-tu, Abraham, d'avoir cru en l'Éternel. Les nations ont fonctionné et se sont étendues jusqu'à aujourd'hui. Les peuples, on a regardé une émission hier soir sur les Celtes, hein, sur les Celtes, qui sacrifiaient aussi, comme au temps des Philistins, etc. Ils avaient la même culture de l'adoration des dieux et du sacrifice des humains pour adorer ces dieux. Il a fallu que petit à petit, l'humanité évolue, et que des lois que les hommes ont pondues étaient déjà écrites. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère, etc. Ils sont venus avec leur intelligence à rattraper 3000, 5000, 6000 ans d'enseignement que l'Éternel leur avait donné. Dans le psaume 2, je voudrais qu'on aille voir un petit peu, parce que dans tout ça, il y a une volonté de l'Éternel au travers de son esprit, ce qui révèle aux hommes, on va retrouver non seulement les nations, mais aussi celui qui guidera les nations. On va lire le psaume 2. Les nations s'agitent, mais pourquoi ? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concentrent sur le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons le lien qui nous impose, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire, celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. Et il dit bien à Sion, la montagne qui m'est consacrée, Jérusalem, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Écoutez, c'est l'inspiration que l'Esprit donne à David. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. La propriété des nations appartient non seulement à Dieu, mais appartient à Christ. Je répète, la propriété des nations sur cette terre appartiennent à Dieu et appartiennent à Christ. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde et tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir souverain de la terre. Souvenez-vous avec respect. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité. De peur qu'il ne se fâche et que votre projet vous perde. Car sa colère peut s'enflammer tout d'un coup. Heureux ceux qui ont recours à l'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que les nations, non seulement même si elles se détournent de l'Éternel, même si elles veulent faire leur chemin, leur propre volonté, elles sont la propriété de l'Éternel. Vous savez pourquoi ? Parce que les nations sont constituées d'êtres humains. Et les êtres humains, c'est la seule création de toute la création dans le chapitre 2 de la Genèse où l'Éternel a mis son souffle. Quand vous lirez dans la création de la façon dont il a créé les choses, la seule chose dans laquelle il s'est impliqué physiquement, il a mis son souffle, c'est l'être humain. Donc toute vie humaine lui appartient. Le cheminement des nations, on arrive à Jésus. On va lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 22. Tiens. Puis le moment, c'est la prophétie qu'on va lire. Vous savez, moi j'étais heureux de relire tous ces textes parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire confiance aux prophètes de l'Écriture. Ce qui est écrit et ce qui a été vécu et ressenti et partagé par les prophètes dans l'Écriture de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, vraiment, quelle vérité, quelle inspiration du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, j'avais noté, on peut faire confiance aux prophéties de l'Écriture. C'est pour bien préciser. On peut leur faire confiance. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification, verset 22, du chapitre 2 de Luc. D'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demandait la loi, une paire de tourterelles et deux pigeons. Et il y avait à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit et il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Et quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Oh, combien Siméon a dû avoir une joie incroyable. Incroyable. Il avait reçu une promesse. Il a fallu qu'il soit vieux et âgé pour recevoir, pour voir cette promesse. Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Qu'on ait la foi de savoir qu'il va réaliser les promesses dans nos vies. Qu'il y a des promesses sur nos vies qu'il va les réaliser. Et non seulement sur nos vies, mais il va les réaliser pour l'Église. Il va les réaliser pour notre nation. Il va les réaliser pour toutes les nations. Parce qu'il dit, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il y a une autre version qui dit devant toutes les nations. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde. Et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. C'est pour ça que je dis qu'on vit une époque formidable. Christ est venu pour apporter une lumière aux nations. Et il avait dit une chose avant son retour. Il va falloir que cette parole soit prêchée à toutes les nations. Alors quand on est allé en congé, qu'on est allé donc en Haute-Savoie, quand on était à la Jeunesse Ardente, on a rencontré une missionnaire, une femme vraiment super. Son mari était encore là-bas, à Madagascar. Ce sont des gens qui sont impliqués depuis de nombreuses années comme missionnaires dans une façon de pratiquer qui est particulière, parce que lui, c'est un ancien pilote de l'armée. et c'est un pilote spécialisé dans les avions de chasse et dans les hélicoptères. Il a fait sa formation d'ailleurs en Bretagne. Et aujourd'hui, il vole pour emmener des missionnaires, des pasteurs, etc., des évangélistes, pardon, pour aller visiter des tribus, des églises qui sont difficilement accessibles. Et j'étais surpris parce qu'elle m'a dit, on a accès à peu près maintenant avec ça, à peu près partout dans le monde. Elle me dit, il reste que quelques tribus dont les États, les nations, nous empêchent d'accéder. Vous me saisissez? Il faut que la parole soit prêchée à toutes les nations. Et les nations ne veulent pas que ça s'accomplisse, cette prophétie. Il resterait 1,5 de la population mondiale qui n'a pas entendu parler de l'Évangile ou qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer l'Évangile. Nous vivons une époque formidable. Parce qu'il a dit que Jésus a dit clairement que tant que ça ne sera pas fait, ce retour ne se fera pas. On n'a jamais été aussi proche. Et aujourd'hui, on a les outils, vous allez voir les outils, comment on va pouvoir comprendre l'écriture et qu'on a cette grâce extraordinaire aujourd'hui. Je suis désolé, il est midi moins 10, vous êtes peut-être un petit peu fatigué, mais des 15 prochaines minutes, vous allez avoir quelques perles et je essayer de rester concentré. Parce que ça vaut la peine. Donc je crois qu'on est dans une génération formidable parce que il y a 40 ans, on était très loin de cette couverture de l'annonce de l'Évangile. La Chine était fermée. Il y a 40 ans, il y avait un mur qui s'appelait le mur de Berlin. Pour les plus anciens, vous l'avez connu. Le monde a terriblement évolué. Moi, il y a 30 ans, je prêchais à un copain sur une plage, on avait été surfer, je lui prêchais, je lui disais qu'il y avait des choses qui se préparaient. On parlait souvent avec lui, il s'est donné au Seigneur. On parlait souvent de la fin des temps, parce qu'il y avait des événements qui faisaient que ça, on avait l'impression que ça s'accélérait. Mais ça n'a fait que s'accélérer. Et ça n'a fait que se confirmer. Je prends un petit coup. On va revenir sur Zacharie, si vous voulez bien. Zacharie 8, 20. Pour voir si ce prophète qui avait reçu des révélations, dont on dit que c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, comme je vous ai dit. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Des nations étrangères, les habitants de nombreuses villes viendront de nouveau à Jérusalem. Vous savez ce qui se passe en ce moment à Jérusalem? Jamais, jamais, depuis que l'État d'Israël a été créé, il y a autant de gens qui reviennent habiter en Israël de toutes les nations. De toutes les nations. Et c'est très récent ce phénomène-là. Vous allez voir aussi pourquoi ce phénomène se produit. Parce que Israël, et ce qui est très paradoxal, c'est qu'Israël se retrouve entièrement entouré. Prenez une carte et tapez sur Internet. Regardez la situation géopolitique d'Israël. Elle est complètement cernée aujourd'hui. Elle est cernée par des nations. Et les descendants de ces nations-là sont les descendants des Philistins, des Amoréens, etc. La Bible est extrêmement actuelle. Je le répète, elle est extrêmement actuelle. Les habitants de nombreuses villes viendront de nouveau à Jérusalem. Les habitants d'une ville proposeront à ceux d'un autre, venez, nous partons prier le Seigneur de l'univers et rechercher sa présence. Nous venons avec vous, répondirent-ils. Oui, de nombreux peuples et de puissantes nations viendront à Jérusalem rechercher ma présence et m'implorer par leurs prières. À ce moment-là, je déclare, 10 étrangers, parlant chacun une langue différente, saisiront un juif par le pan de son manteau, lui diront, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que le Seigneur est avec vous. Vous savez ce qu'il a dit là? C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. On peut faire confiance aux prophéties dans l'Écriture. Et il y en a d'autres. Et il y en a beaucoup d'autres. Alors, dans Marc 13, je vous fais vous promener un petit peu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais je crois que... Voilà ce qu'il était dit. Il faut avant tout que la bonne nouvelle, c'est au verset 10, hein, 13-10, si vous voulez noter. Hein. Il faut avant tout, parce que Jésus a une conversation avec ses disciples et il parle de la fin des temps. Alors, c'est divisé. Allez, on va y aller, on va le faire. On va lire ce texte. Alors Jésus se met à leur dire, faites attention que personne ne vous trompe. Et je répète, faites attention que personne ne vous trompe. Parce que ça veut dire que vous risquez d'être trompé, si on est averti. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui viendront vous annoncer des choses. Il y en a beaucoup qui nous diront des choses qui ne seront pas justes, mais qui auront un goût séduisant. Donc soyons sur nos gardes, parce que plusieurs fois dans l'Écriture, il nous est annoncé d'être sur nos gardes. Et la meilleure façon d'être sur nos gardes, il y en a deux façons. C'est de garder précieusement sa parole, et la deuxième, c'est d'être en cohésion les uns avec les autres. De veiller les uns sur les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je peux vous faire confiance, vous veillez sur moi. Si je dis des bêtises, vous me rattrapez. Et si vous me voyez m'égarer, vous m'avertissez. Amen. Okay. Alors Jésus se mit à leur dire, faites attention que personne ne vous trompe. Beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie. Et ils tromperont quantité de gens. Quand vous entendrez. Il y a deux symptômes qui m'ont interpellé dans l'Écriture. Quand vous entendrez le bruit de guerre proche et de nouvelles, de guerre proche et de nouvelles sur des guerres lointaines, ne vous effrayez pas. Écoutez-moi bien. Pour que vous puissiez entendre, il faut qu'il y ait des outils qui puissent vous le partager. Et pour que l'ensemble des chrétiens sur la terre puissent entendre cela, il faut des outils pour ça. Il y a 50 ans, il n'y avait pas les outils pour ça. Aujourd'hui, ce matin, on a les outils pour que tous les chrétiens sur la terre entendent parler de bruit de guerre. Pouvez m'expliquer pourquoi l'angoisse saisit les nations, comme il nous le dit dans l'Écriture. L'angoisse saisit les nations. Moi, si je m'isole, vous n'avez pas rêvé d'une île déserte, vous? Non. Il n'y a que moi qui en rêve de temps en temps. Si je n'entends plus, je vis ma vie différemment. Mais nous sommes rentrés dans une société, vous allez me suivre jusqu'au bout, vous allez voir. Parce qu'on a le son et on a aussi l'image. Donc vous entendrez, ça veut dire qu'il y aura ce qu'il faut pour qu'on entende. Alors, je ne vous fais pas la liste des moyens pour vous faire entendre. Mais il y en a aujourd'hui. Il y en a. Vous entendrez parler de guerre. C'est marrant, quand on juge des informations, ils ne nous donnent que des mauvaises nouvelles. Ils nous parlent de quoi? Merci. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Les nations se foutront dessus. Mais on va le savoir. Excusez-moi l'expression. Hein, mais c'est... Vous avez vu comment ils aiment guerroyer en ce moment? Comment ils aiment manifester une violence. Il y a eu un temps très fort quand on est allé aux États-Unis ensemble, quand on est allé à New York. Moi, j'étais extrêmement touché quand j'étais au pied. Enfin, au pied. Devant le trou des tours jumelles. Et que j'ai vu la liste avec le bandeau métallique avec le nom de tous les gens qui étaient là. Je voyais des noms de Français. La Fleur, je me souviens. Etc. Mais c'est énorme. 4000 personnes. C'est beaucoup de gens qui... Il y a eu un symbole de la sécurité de l'Occident qui a été écroulé. Parce qu'on est touchable n'importe où. Et la guerre peut se déclencher n'importe où. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Donc la première chose, c'est que vous entendrez. Ok? Et écoutez ça. Il y aura des tremblements de terre dans différentes régions ainsi que des famines. Ce sera comme les premières douleurs de l'accouchement. Quant à vous, faites attention à vous-même. Car des gens vous feront passer aussi devant des tribunaux. On vous battra dans les synagogues. Vous devrez comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Pour apporter votre témoignage devant eux. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, à tous les peuples. Et lorsqu'on vous arrêtera et qu'on vous conduira, donc vous avez la première chose, vous entendrez. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des manifestations de tremblements de terre dans différentes régions ainsi que des famines. Vous savez que les sismologues aujourd'hui disent que depuis 20 ans, ils n'ont jamais vu autant de tremblements de terre se manifester sur la côte terrestre. Vous croyez quoi? Que tous les essais nucléaires qu'on a fait, tout ce qu'on s'est balancé comme bombe, tout ce qu'on a creusé, va laisser la Terre indifférente? Non, non, non. Quand j'étais adolescent, j'avais collé sur mon dossier de classe, c'était un dessin qui avait été fait, je ne sais pas où je l'avais trouvé, on voyait Satan qui était en train de cultiver, il y avait des champignons atomiques un peu partout, il y avait le dessin de la Terre, il disait, j'ai commencé à cultiver, je vais bientôt à récolter. Et nous avec. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. On est juste à la clé de ça, je vous ai dit. Hein. Et lorsqu'on vous arrêtera pour vous conduire, tout ce que vous aurez à dire, enfin, on parle de la persécution des chrétiens. Vous savez, j'ai juste repris quelques notes. C'est un téléphone qui sonne ? 150 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde. On va laisser s'éteindre d'abord, parce que c'est des chiffres importants. J'ai repris quelques chiffres, et quand j'ai entendu Thierry ce matin parler de porte ouverte, je suis un peu fouillé sur leur site. 150 millions de chrétiens sont persécutés. Une augmentation jamais vue. Une augmentation jamais vue. Ce n'est jamais arrivé qu'autant de frères et de sœurs soient persécutés dans le monde. 60 pays aujourd'hui dans le monde persécutent les chrétiens. Je vous ai fait grâce de la liste. Hein. Et ça, c'est 60 pays qui les persécutent. Je ne parle pas des pays qui empêchent les chrétiens de s'exprimer. J'en citerai pas un. Et aujourd'hui, les chrétiens sont torturés, sont crucifiés, sont décapités, sont violés. Et c'est le pape qui le dit. Et qu'alerte les chrétiens, qu'alerte les hommes politiques. Jamais on a vu, et je lis, je reprends ce que j'ai pu lire, hein, je ne l'invente pas, on n'a jamais vu une telle intensification de la persécution des chrétiens depuis les 5 dernières années. Le monde tremble. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses encore. Hein. Luc 17, 26. Allez, on y va. On est bien d'accord entre nous. Hein. Je ne cherche pas à vous faire peur. Je cherche simplement à ce que vous ayez... Comme moi, j'ai pu l'avoir en m'y approchant de ces textes et de tout cela. Une conscience qui se réveille. Parce que je crois que Jésus a dit quelque chose qui m'a toujours surpris. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sera tellement anesthésié par plein de choses que ça va être un vrai combat de garder la foi. Je crois aussi qu'on aura tellement un ego, et là je suis sûr de ne pas me tromper, on aura tellement un ego qui se réclamera des choses et des choses à Dieu, et si on n'a pas la réponse à ces choses-là, alors on n'aura pas de persévérance. Parce qu'on aimera le plaisir plus que Dieu. Et sincèrement, je vous le partage, moi je fais partie de cette génération qui aime le plaisir plus que Dieu. Et je sais ce que ça veut dire. Et c'est important de bien saisir les temps où nous sommes. Luc 17, 26. Qui est à Luc 17, 26 là? Bien. Un élève ça, hein? Tu veux lire alors? Juste un petit rappel, vous savez, au verset 25 de Luc 21, il nous est dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. » C'est que les Français sont champions du monde, hein, de l'angoisse. Et des tranquillisants, et des antidépresseurs. On est les champions. Les laboratoires ne se sont jamais fait autant de... Merci. que dans les 10 dernières années. Et la majeure partie des médicaments qui sont utilisés sont pour lutter contre les angoisses. Comme j'ai dit souvent, les chrétiens ont perdu le chemin de l'église, ils ont trouvé le chemin de la pharmacie et de la mosquée. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Moi j'aime bien les vagues, hein. Et j'ai jamais entendu parler que les gens... J'ai jamais entendu parler de ça avant, il y a quelques années. Parce qu'on est en train de nous parler de submersion. Et les nations commencent à s'inquiéter parce que vous avez des régions où il y a par exemple 10 millions d'habitants dans l'embouchure du Gange. Si jamais les eaux montent, c'est 10 millions de personnes où on ne va pas savoir comment faire. Et ça, c'est sur juste un pays. Je vous garantis que je serai à leur place, je serai dans l'angoisse. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il nous est dit, au verset 28, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Luc 17, 26. Et là, je crois qu'il va falloir qu'on soit très attentif. Parce qu'il nous est parlé de deux événements dans l'écriture que vous connaissez bien tous. Et Jésus a averti. Il a dit, il en sera de même comme au temps de Noé. Ok. Et il a dit aussi, il en sera comme au temps de Lot. Ces deux références-là sont surprenantes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Noé, les hommes avaient choisi de vivre dans une liberté loin de Dieu. Ok. Ils ont fait leur choix. Voilà comment la nation et comment la terre était. Il dit ceci au chapitre 6 du verset 11 de la Genèse, il nous dit ceci. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Ce n'était que violence. Quand il regarda la terre, il constata que tout le monde s'y était dévoyé. Il y avait une violence et une connaissance de la violence qui était énorme. Et c'est cette violence-là, et c'est cette capacité à faire la guerre, à tuer, à massacrer, à crucifier, à décapiter, qui a enclenché la colère de Dieu. Il en sera comme au temps de Noé. La violence, c'est ce que disent les sociologues et les psychologues, disent qu'il y a une violence qui naît de plus en plus dans les peuples. Waouh ! Moi, je suis très inquiet pour la génération de mes enfants. Vous savez, on a besoin, quand on a un garçon, d'exprimer sa violence et de vivre des choses, de les extérioriser. Moi, j'ai très peur quand je vois ces jeunes qui, pendant des heures, se nourrissent de jeux vidéo, de violence et de guerre. Regardez bien les jeux. Il y en a un qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il connaît ça ? Il y en a un qui est super à la cote en ce moment. Call of Duty. Merci. Call of Duty, c'est passionnant comme jeu. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. C'est super. Ah, t'es un garçon, toi. Non, oh, mais c'était pas pour toi. Moi, j'aime bien ces jeux-là. Hein. Ouais, ça me fait kiffer. Le seul problème, c'est qu'au bout d'une demi-heure, j'ai le cerveau qui n'arrive plus à faire le pont entre la réalité et le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis en train de massacrer un mec, là. Parce que je m'acharne dessus. Je suis en train de m'acharner pour le massacrer. Vous comprenez, c'est qu'on entraîne... Alors, ceux qui n'ont pas ces jeux-là, on les entraîne à la guerre. Il y a des armées d'enfants qui sont formées par le djihad. Des armées d'enfants. Et de femmes. Et il y a quelques femmes courageuses qui combattent ces gens-là au nord de la Turquie. On sent qu'elles sont courageuses. Hein. On continue, ça va ? Vous m'accordez combien ? Un quart d'heure ? Ça va ? Alors on va rentrer dans des choses. Vous savez, moi je ne suis pas devin. Et je ne suis pas prophète pour ces choses-là. Mais je discerne de plus en plus. Il y a de nombreuses années que ce sujet-là m'intéresse. Il y a comme s'il y avait un puzzle où les pièces de l'écriture. Et vous allez mieux me comprendre tout à l'heure quand je vais vous le partager de cette façon-là. Il y a comme des choses que les hommes ont pu lire, et j'ai ramené une Bible qui a près de 200 ans avec moi, vous allez comprendre pourquoi. Les hommes, pendant des générations et des générations et des siècles, ont lu des choses qui étaient totalement hermétiques pour eux. Vous allez mieux me comprendre, vous allez voir. C'était pas possible de les comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, on peut, et chacun d'entre vous peut les comprendre. Et vous allez voir un exemple très précis. Et il y a Pat Berning qui est un musicien et qui a écrit un chant. Et dans ce chant, il dit « J'entends comme un roulement de tambour. J'entends comme un grondement dans le ciel. » Et vous savez quoi ? Ben, j'ai l'impression que j'en entends un petit bout. Parce que tout ce puzzle qui est là, toute cette écriture qui est là, toutes ces révélations qui sont là, Eh bien, j'ai l'impression de voir les pièces qui sont quasiment prêtes. Elles ne sont pas assemblées, mais on a la capacité de les discerner et de voir que ces pièces sont prêtes. Pourquoi on ne verra pas la suite du puzzle tout de suite? Et méfiez-vous, parce qu'il nous est dit que les choses se passeront d'une façon soudaine. Et les choses surprendront les hommes. Ça se fera en un instant. C'est pour ça, j'ai aucune prétention dans ce que je vous partage. C'est simplement de vous dire que voilà, il y a des pièces qui sont là. Et ces pièces, de plus en plus, elles sont discernables. Elles sont visibles à nos yeux. Et ça, c'est pour vous appeler à un cheminement vers la sanctification. Parce que moi, j'en ai besoin de ça aussi. Alors les nations ont un autre rendez-vous avec Dieu. Et avec Jérusalem et avec le Christ. Comme je vous ai dit, nous sommes au matin du troisième millénaire. Et un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Et Jésus est ressuscité au matin du troisième jour. Vous savez, dans les Écritures, si vous vous consacrez un petit peu à l'Écriture par rapport à Zacharie, par rapport à Daniel, par rapport à tous ces prophètes, par rapport à l'Apocalypse, on dit d'ailleurs que l'Apocalypse est souvent l'évangile de Jésus. Vous verrez combien les comptes avec Dieu et les chiffres sont précis. Jésus doit revenir et poser ses pieds à Jérusalem. L'Antéchrist s'y opposera et les nations qui l'auront suivi aussi. Et il y aura un grand rendez-vous tout près de Jérusalem dans la vallée d'Armageddon. Et là, les nations qui ont été nourries par la violence viendront pour la violence. Et c'est une guerre totale qui se produira. Il y a quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui est à l'église de Saint-Lunaire, qui a écrit un livre sur le califat. Et sur des projections du califat. Il a écrit il y a 3 ans. Moi, je l'ai lu il y a 3 ans. Je suis impressionné de voir ce qui se passe par rapport à ce qu'il a écrit. C'est impressionnant, vraiment. Le titre du livre, le califat, c'est l'installation d'un État, d'une nation plutôt, une nation islamique, je dis bien islamique, voilà, avec une couverture qui va cerner, qui va partir de la Libye, qui va remonter jusqu'en Égypte, qui va passer par tous les pays du Golfe et qui va remonter et qui veut remonter jusqu'en Syrie, jusqu'en Turquie. Vous aurez un croissant qui va cerner Israël. Et les nations, à un moment donné, vont être obligées de prendre position pour ou contre Israël. Parce qu'il restera juste un petit bout de territoire qui sera démocratique et où il y aura des chrétiens. Et c'est intolérable. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de préparer le massacre de ces gens-là. On le fait. On entraîne les gens à les décapiter, à les scier, à les crucifier. Chapitre 16, verset 16 de l'Apocalypse, il nous a dit voilà où, comment sont entraînées les nations. Malgré elles, je vois bien que les hommes politiques se démènent pour essayer d'empêcher les choses. Mais il y a comme quelque chose qui les une violence, une inertie. Ils n'arrivent plus à diriger les nations. Eux-mêmes le disent. Le pays est devenu un... Merci. Ce sont les esprits des démons, verset 14, chapitre 16, qui font des miracles et qui vont auprès des rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Parce que quand Dieu a fixé un rendez-vous, je vous garantis qu'il sera à l'heure et qu'il va l'honorer, ce rendez-vous. Écoutez, dit le Seigneur, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et n'avoir pas honte d'être vu ainsi. Les esprits rassemblèrent les rois dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Et Armageddon se trouve à un vol d'oiseau d'Israël. Apocalypse 19, 11. Puis je vis... Ça marche pas trop vite ? Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Quelle grâce ! Il juge et combat avec justice, ses yeux flamboyants comme du feu... Et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Et il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, destinée à frapper. Okay. Il les dirigera avec une autorité de fer, c'est exactement ce que Zacharie nous a dit au chapitre 8 du verset 20. C'est pour ça que c'est des choses, c'est des perles qui vous sont données ce matin. C'est des cadeaux pour prendre conscience que l'Écriture et que la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Et il écrasera les raisins dans le pressoir de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça va être un truc, Armageddon, un truc de fou. Ouais, ça va être un truc de fou. 200 millions d'hommes seront rassemblés. 200 millions d'hommes seront rassemblés. Et il est écrit sur son manteau et sur sa jambe, le nom suivant était inscrit, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus qui est venu sur cette terre, humblement. Qu'est-ce que ça m'agace quand on dit le petit Jésus? Quand il est venu sur cette terre, il est venu humblement pour accomplir une mission de miséricorde. Il est venu pour apporter le salut aux nations. Et il fallait que sa parole... Quand vous imaginez qu'un pauvre charpentier au fin fond d'un pays qui était quoi, Israël, qui était sous occupation romaine, c'était un petit groupe de gars qui s'étaient rassemblés. Et il a dit, les choses se passeront au moment où ma parole sera prêchée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. On y est dans ce qu'il nous a dit. Je vous laisse faire une petite pause pour méditer, ça fait beaucoup de choses, hein, je suis d'accord. Comprenez que je ne pouvais pas faire un seul message, les nations, Christ et nous. C'était difficile. Ça vaut le coup hein, quand je pars en vacances. Matthieu 25. Alors je dis un vol d'oiseau, c'est. J'ai pas précisé, je l'ai lu hein, dans mes recherches. C'est une vallée, c'est pas très loin de l'Euphrate. Ouais, c'est. Je sais pas si c'est. Oui, je crois que c'est hors d'Israël, mais pas très loin. Hein, c'est au nord d'Israël, c'est entre le Liban, l'Israël et la Syrie. C'est très actuel, hein. Très actuel, hein. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, il y a le sang de la vie dans nos sociétés. Il est lié à quelque chose de très particulier. Il est lié au pétrole. Et la source du pétrole, elle se trouve où? Elle se trouve dans toute cette région-là. Et vous savez quel était le ciment qui a permis de couler le pétrole? C'était du bitume. C'est quand même quelque chose, hein? Et la vallée existe. De Josaphat, c'est ça. À perte de vue. Tu l'as vu, toi, en Israël?
Oui.
Waouh!
Tout est prêt.
Tout est prêt. Tout est prêt, on est d'accord. Tout est prêt. C'est pour ça que je vous dis, il y a des puzzles, et je vais conclure, hein, je vais plus être trop long maintenant. Comme dit Yannick, il faut l'arrêter celui-là des fois. Matthieu 25, 31, j'avais noté ça. Si vous voulez bien qu'on y aille. Ah ben non, je ne sais pas pourquoi j'ai noté marqué 31. Pardon, Matthieu 25, excusez-moi. Non, c'est pas nécessaire. On va passer temps là-dessus. On va conclure, on va y aller. On va aller dans Apocalypse 13, 6. Alors là, justement, je vous avais ramené, et je vais la prendre. Je vais prendre ma Bible qui a près de 200 ans, qui avait été offerte à l'époque à une certaine Julie Struller. Noël 1865. En fait, elle a juste 150 ans. Ah bah tiens, c'était ça. Je l'avais mis dans la Bible. Voilà. J'avais pas trouvé autre chose à la maison. Je m'étais dit, voilà, un petit grain de sable et ça va très vite. Et les secondes s'écoulent. Et les années. Et les siècles. Voilà. Un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Apocalypse, alors voilà, on peut se dire que les traductions de la Bible sont éventuellement à remettre en cause. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelques écrits qui peuvent avoir entre 200 et 300 ans. Mais, un, c'est Pan Scofield, mais c'est une. Comment elle s'appelle Oswald. Osterwald. Osterwald, ouais. Alors, voilà cette chère sœur qui est dans la présence du Seigneur aujourd'hui. J'ai pu récupérer sa Bible. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, on y va ? 13, 15 et 16. On peut aller au verset 12. On parle de la bête. La bête, c'est un symbole pour les nations. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu et du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle avait le pouvoir de faire en présence de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image de la bête qui, après avoir reçu un coup mortel de l'épée, était cependant encore en vie. C'est la même traduction que vous, hein. Écoutez bien ceci. Et je me souviens très bien de partager ça avec mon copain avec qui on s'est refait il y a une trentaine d'années. J'aurais jamais pensé que ça aurait fait un tel chemin en 30 ans. Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête. Cette femme qui a lu ça, il y a 150 ans, elle était incapable de comprendre ça. C'était une prophétie totalement énigmatique. Et ça l'était il y a encore 50 ans. Comment les générations qui nous ont précédés ont pu lire cette phrase et penser que c'était possible que l'image serait animée, qu'un dessin animé, qu'une image animée. Et il nous est dit, vous comprenez très bien ce que je veux dire, et en l'espace de 30 ans, 25 ans, une génération, on a réussi à ce qu'une image animée qui touchait, allez, une famille ou une personne sur 10 sur cette terre puisse toucher tout le monde aujourd'hui. Dernier JO, il y a eu près de 5 milliards de personnes qui ont suivi l'inauguration. 5 milliards de personnes. Demain, il y a un événement qui concerne toute la planète pour des raisons de sécurité, pour des raisons ultra importantes, tout le monde aura entendu et pourra voir l'image de la bête qui sera animée. Et ça va même beaucoup plus loin. Vous savez qu'en 2017, au mois de mai, je crois, il y a un concert qui est organisé à l'Olympia avec Claude François et Dalida. Attendez, écoutez bien, hein. C'est un concert où ils seront sur scène. Mais ils sont morts. Avec les hologrammes. Et bientôt dans votre téléphone, vous prendrez votre téléphone, hein, et puis vous appuyez sur un bouton, je verrai Yannick qui apparaîtra sur le téléphone. Comment tu vas? Ça va bien. Lui me verra de la même façon. Ouais, super. Ouais, c'est bien, tu lèves les bras. Il lui sera donné d'animer l'image de la bête. Et moi, je tiens cette Bible entre mes mains et cette femme qui l'a lue, et j'espère d'autres générations, était incapable de comprendre ces choses. Elle obligea tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front. Comment c'était possible il y a encore 50 ans? Et pour des raisons de sécurité, demain, on vous mettra une puce dans la main ou on vous mettra une marque sur le front.
C'est déjà commencé.
Merci. J'attendais que vous me le confirmiez.
Le fond dans les cliniques sur les deux pays.
Tout à fait. Et puis ça sera très pratique parce que, au lieu d'avoir ta carte bancaire, tes papiers, ton machin, carte d'identité, etc., t'auras tout sur toi. Et si tu refuses ça, tu seras bloqué. Et personne ne pourra ni acheter ni vendre à part celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Dans cette vieille Bible, quelqu'un lui a écrit quelques petits versets. Et pour conclure, je vais vous lire ce verset. Ce qui lui avait été écrit, c'était dans Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et il est dit ceci.
Maman.
Il est dit ceci en conclusion, je voudrais vous laisser ça. C'est étonnant quand même qu'en préparant ce message, j'ai pu aussi avoir la possibilité d'avoir cette Bible entre les mains. Et que ça concluait parfaitement ce message. Le petit mot que quelqu'un lui avait mis. Alors c'est tellement bien écrit que c'est pas facile à lire parce que c'est des magnifiques boucles, magnifiques écritures avec, vous savez, c'était de la plume à l'encre. Et il lit ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Le Dieu de paix veille sur vous. Le Dieu de paix veille et vous sanctifie lui-même parfaitement. Et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, pour l'avènement, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera aussi. Mes frères, priez pour nous. Saluez tous nos frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette épître soit lue à tous nos frères. Amen. Je suis désolé, je vous ai retenu très longtemps, mais je crois que voilà, on va pouvoir prier quelques instants. Et il y avait un chant que je voulais qu'on chante à la fin de ce message. Je sais, c'est riche, c'est dense, c'est copieux. Prenez le temps de reméditer tout ça. Mais je crois que nous vivons une époque formidable. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons d'avoir pu ouvrir ta parole. Nous te bénissons d'avoir pu nous enseigner, nous nourrir, nous instruire. Et je te loue, Seigneur, de cet honneur, de cette grâce que tu nous fais, de nous avertir, de nous parler, de te révéler. Seigneur, je te prie que de nous donner aussi le cœur pour aller à l'essentiel, pour vraiment aller à l'essentiel. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Béni sois-tu. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Amen.